Nous sommes dans les dernières semaines de l'année liturgique et dans les dernières semaines de l'année liturgique, nous voyons profondément le sens à la fois de l'année liturgique, le sens aussi de l'histoire des hommes et aussi notre histoire. Vous savez, les chrétiens ont une conception du sens de l'histoire qui est peu commune et qui ne correspond pas au sens de l'histoire tel que les philosophes hegéliens, marxistes ou même notre époque le pensent. Il y a des philosophies orientales qui pensent que l'univers est cyclique. Bref, on se recycle sans cesse en se réincarnant et c'est un bis repetita éternel. Et on va de incarnation en incarnation, de réincarnation en réincarnation, pour espérer un jour être purifié et sortir de ce cercle presque infernal. C'est le bouddhisme. Mais en gros, il n'y a qu'un seul univers, et on n'en sort pas vraiment, en fait. On atteint l'état d'illumination, confère le Bouddha. Il y a eu des philosophies de l'histoire, on pense à Hegel, on pense aussi à Marx, qui a voulu par exemple abolir les classes sociales et à un moment donné, la dictature du prolétariat arriverait à un état d'humanité supérieur et ça serait véritablement le sens final de l'histoire. Ça a été l'utopie communiste au XXe, ça fait énormément de dégâts. Aujourd'hui, les utopies, les grandes mythologies sont tombées dans la société. Mais il demeure qu'on croit encore, plus trop, complètement, mais on croit encore au progrès technique, à l'accumulation et le fameux sens de l'histoire. Demain, on trouvera des solutions scientifiques, technologiques, à nos solutions, à nos problèmes. Et donc, c'est un peu ça aujourd'hui que l'homme pense pour le sens de l'histoire. En réalité, l'accumulation technologique matérialiste scientifique de connaissances n'a jamais fait forcément un progrès moral. Il y a des époques où on savait peu de choses et on avait une, au niveau technologique et une grande sens moral. Il y a d'autres époques où on a pu avoir beaucoup de savoir technologique et un grand sens moral. Les bâtisseurs des cathédrales étaient doués dans leur domaine et sans doute avaient un grand sens moral. Mais il y a aussi des époques où on a eu beaucoup de technologies qui ont fait la Seconde Guerre mondiale et pas un grand sens moral, on pourrait dire, avec les bombes nucléaires et la Shoah. Et pourtant, on avait de la technologie, on savait faire. Et donc, le progrès de l'homme n'est pas lié au déroulement de l'histoire directement. Et le progrès et le sens de l'histoire chrétien, ce n'est pas de cet ordre-là. Il n'est pas dans la matière, il n'est pas dans la politique. Il est profondément surnaturel. Dieu est le maître de l'histoire. Et la liturgie en cette fin d'année nous rappelle le sens de l'histoire, c'est que le créé, particulièrement les êtres doués de conscience, c'est-à-dire les anges et aussi les êtres humains, se prépare à aller au ciel ou à ne pas y rentrer. Et donc, il y a une urgence pour les êtres humains à prendre conscience que leur vie est orientée. Qu'elle a un sens, c'est le ciel. Nous sommes ici-bas pour chacun d'entre nous nous préparer au ciel. C'est le sens de notre vie, le sens de la liturgie qui se prépare au retour du Christ avec la fête du Christ-Roi. C'est l'avènement du Christ, en latin « Adventus ». Et les deux premières semaines, même de l'Avent, du temps de l'Avent, « Adventus », prépare véritablement le retour du Christ, cet avènement du ciel. C'est pour ça que les religieuses se lèvent la nuit. Les religieuses se lèvent la nuit pour prier l'office des vigiles et ils font exactement comme dans l'Apocalypse, ce chant de l'Église lié au Saint-Esprit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Cette fameuse parousie que nous attendons du retour du Christ en gloire, à chaque Eucharistie, nous attendons ta venue dans la gloire. Et c'est ça le sens de l'histoire. L'histoire est orientée vers le ciel et le retour du Christ. Et ma vie personnelle est orientée vers le ciel. Il y a donc une urgence à penser le ciel, et non pas simplement penser la prospérité terrestre, matérielle, de l'accumulation. Car ce sens de l'histoire n'est pas un sens de l'histoire. Nous sommes orientés, nous sommes faits pour le ciel. C'est le sens de notre vie. Et ça s'inscrit dans notre corps et dans notre âme. C'est pour ça que les premiers chrétiens, certains, il y avait une urgence à l'époque de Paul, on pensait que le Christ allait revenir tout de suite. Et donc les premiers chrétiens, certains ne se mariaient pas parce qu'ils se préparaient pour le ciel. Et qu'au ciel, on n'est pas marié. Comme nous dit le Christ, on est comme des anges. La vie de célibataire consacré est la vie que tous les chrétiens auront au ciel. En fait. Et donc les chrétiens ici-bas se disaient « Comment je me prépare pour aller le plus vite au ciel ?» Si Dieu m'appelle au mariage, pour aller le plus vite au ciel, tel est mon chemin. Si Dieu m'appelle au célibat pour anticiper la vie qu'on aura au ciel, tel est mon chemin. Et je pense que pour chacun d'entre nous, quels que soient nos états de vie, prêtre, consacré, marié, il est bon de méditer le ciel et le célibat du ciel. Sinon, on vit une vie terrestre. Alors, il faut vivre une vie céleste anticipée, se préparer au ciel. C'est la vertu d'espérance. On l'a représentée dans l'iconographie primitive chrétienne par l'ancre. On était arrimé, non pas à l'ancre en bas, mais l'ancre en haut, au ciel. On était tendu au ciel et le ciel éclairait tout l'agir chrétien, tout le devenir chrétien, tout le sens de la vie, de l'histoire du chrétien. Et donc, si vous voulez, le célibat, c'est une vertu capitale à comprendre. Elle est soupçonnée aujourd'hui. Elle est par rapport aux difficultés morales qu'il y a pu y avoir. Ou même, on se dit, ce n'est pas une vie réalisée. Mais c'est très important que les chrétiens mariés ou en discernement méditent ça. Parce que c'est le sens de l'histoire. Si un jour tu es marié, c'est bien. Et sache qu'au ciel, tu seras consacré et pas marié. Donc tu dois méditer ça. Parce que ton mariage, c'est en vue de ta consécration au ciel. Et si tu es consacré ici-bas, c'est ce qui te prépare ce que tu seras toujours au ciel. Donc tu dois méditer, que tu sois marié ou consacré, le célibat. C'est très important. Et c'est très important parce que l'Église considère que c'est la vie de perfection, confère Vatican II. Saint Ignace de Loyola dit « Il faut plus louer le célibat que le mariage », exercice de Saint Ignace. Et Familiaris Consortio de Jean-Paul II, il dit « Le célibat est supérieur au mariage ». Donc on ne le médite pas en fait. Il faut le méditer, si l'Église le dit. C'est-à-dire qu'il faut le désirer même. Et même les saints mariés doivent le désirer. Louis et Élie Martin ont voulu être consacrés à Dieu avant de se marier. Ce qui va donner à leur couple terrestre une densité pour aller vers le ciel très forte. Parce qu'on est arrimé au ciel. On est arrimé à la vie consacrée. Et la vie consacrée, qu'est-ce que c'est? C'est l'eschatologie, du grec eschaton, dernier. C'est ce qui prépare la vie du ciel. Donc c'est ce qui donne le sens de la vie terrestre. C'est ce qui donne le sens de l'histoire des chrétiens. Il y a parmi nous des consacrés qui sont comme des panneaux signalétiques qui montrent le ciel pour que les chrétiens mariés qui vivent de la terre ne soient pas des terrestres désorientés, mais tournés vers le ciel. Et ces consacrés disent aux mariés, Dieu seul suffit, il est la vie. Et cette vie est telle qu'on l'a envie anticipée, elle nous prépare au ciel. Et si nous n'avions pas de consacrés, on risquerait d'être désorientés, de perdre le sens de notre vie et de l'histoire. Parce qu'au ciel, on est tous consacrés. Et qu'en fait, c'est quoi le mariage, du coup? Le mariage, c'est pas simplement de faire une descendance. Ça, c'est une vision belle, mais simplement humaine. Le mariage, c'est céder mutuellement à aller au ciel. Ça s'appelle être orienté, avoir un sens. En cela, nos aînés consacrés sont quelque part les premiers de cordée. Ils montrent le chemin à toute l'Église. Elle est faite pour la consécration. En réalité, plus précisément, elle est faite pour quoi? Pour les épousailles. C'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Les consacrés ont épousé Dieu. Ils disent comme Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit. Et les mariés en chemin se préparent dans leur âme chacun un jour à épouser Dieu. Et l'univers se prépare à être épousé par Dieu. Tel est le sens de l'histoire. Et donc mon agir, c'est en vue d'une épousaille. C'est grand et c'est immense en fait. C'est immense. Et cette épousaille nous fait rentrer dans une vie absolue, pleine. Ici-bas, c'est la vie préparatoire. Et à la mort, on dit, comme la petite Thérèse, j'entre dans la vie pleine. Et donc, nous avons besoin de méditer ça, parce que souvent, nous sommes trop terrestres et pas assez célestes, parce que des fois, nous sommes désorientés. Nous pensons l'accumulation, la prospérité, la génération, la descendance, alors qu'il faut penser comment je vais au ciel et le plus vite possible. Et c'est ainsi qu'on discerne, c'est ainsi qu'on fait advenir le royaume de Dieu, que ton règne vienne. Et parmi nous, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui montrent ce signal à l'humanité. C'est pour ça que les églises ont un clocher. Je me suis souvent posé la question, pourquoi elles ont un clocher? Ce n'est pas un minaret, ce n'est pas quelque chose où simplement un son se retentit dans la géographie simplement horizontale. C'est parce qu'un clocher, c'est une flèche. Ça montre le ciel. Et donc les chrétiens sont orientés vers les flèches, les clochers, mais les consacrés, parce que le peuple se prépare entièrement à être consacré au ciel. Et c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'épousaille de chaque âme et du peuple de Dieu. Et comme il y a une telle urgence, parce que le retour du Christ peut arriver à tout moment, les chrétiens le comprenaient dès le départ. Et Paul dira aux chrétiens, si vous brûlez de désir, mariez-vous. Mais si vous vous retenez, faites comme moi, c'est mieux. Parce que c'est le sens de l'histoire et que ça nous prépare. Et donc, si tu médites pas ça, la vie consacrée, le ciel, tu risques d'être désorienté et de mal discerner et de mal évaluer la vérité d'une vie, d'un sens, sur le temps que tu as à faire ici-bas. Si tu as ça en tête, alors tu discerneras mieux à quoi tu es appelé et tu donneras un meilleur sens à ce que tu dois faire ici-bas. C'est un enseignement pour les consacrés, les prêtres, mais pour aussi les mariés. Car le mariage aussi a besoin d'être orienté vers son terme. Et cet enseignement que nous donne le Seigneur, c'est que rien d'ici-bas n'est définitif. Ainsi, les Juifs qui se posaient la question du définitif, cette femme a eu 7 maris, avec lequel ce sera définitif, et le Christ de dire, il n'y en aura aucun. Parce que le mariage ici-bas n'est pas définitif. C'est la vie consacrée, c'est comme les anges qui est définitif. Et donc chacun d'entre nous, nous devons réapprendre à considérer ce qui n'est pas quelque chose d'annexe réservé à certains, mais central pour l'orientation de la société, de l'histoire et de l'Église et de sa propre vie, c'est que tu es fait pour le ciel et pour la vie consacrée. Soit ici-bas, soit pour le ciel, soit en un temps, soit en deux temps. Et qu'au final, c'est les épousailles. Et quand le Seigneur va revenir, il aura, dans les cœurs de chacun, posé cette question, comment tu t'es préparé au ciel? Comment tu t'es préparé dans l'Eucharistie aux épousailles définitives? Et quels moyens tu as pris pour y aller le plus vite? Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.